Breton a survécu au surréalisme. Oui. Une aventure tumultueuse où les reniements, les excommunications, toutes sortes de déchirements ont finalement dispersé ceux qui avaient rassemblé, encore une fois, une révolte contre le réel, le surréalisme, c'est la promotion de l'imagination, c'est la plus grande liberté accordée, encore une fois, au rêve, à l'inconscient, et c'est la ruée en littérature de tout ce qui a échappé et qui ne pouvait pas être contrôlé par la raison. Que reste-t-il du surréalisme? Que reste-t-il de Breton? Quel texte mérite aujourd'hui, après l'appareil historique du mouvement, qui mord de ses propres contradictions? Pourquoi Breton?
Je suis un inconditionnel, je dis qu'il reste tout Breton. Il reste tout Breton comme il reste les champs de Val-de-Mort, c'est-à-dire que là aussi, ce qui me plaît et ce qui a eu une action déterminante dans la rencontre avec Breton, à travers les livres qu'il a écrits, à travers sa trajectoire historique d'homme également, c'est l'expression de la rébellion. Je crois que je suis extrêmement sensible aux rebelles, aux gens qui disent non, aux gens qui savent rompre avec les modes et les conventions et les habitudes prises et les routines. Je crois que ce qui me plaît en Breton, c'est qu'il m'a appris qu'Osiris est un dieu noir. Je le cite, Osiris est un dieu noir. Ça veut dire que toutes les ruptures avec l'ordre établi sont légitimes. Dans le manifeste du surréalisme, il proclame clairement la réhabilitation de l'amour fou sous toutes ses formes. La réhabilitation de l'enfance comme le seul moyen de rentrer enfin en possession de nous-mêmes et du monde. Parce que ce qu'on nous apprend et ce qu'on nous a inculqué avant le surréalisme et qu'on continue à nous inculquer, c'est à ne plus être des enfants. C'est-à-dire à perdre cette espèce de logique particulière qui met en péril l'ordre établi. Il n'y a rien de plus corrosif que le regard de l'enfant. Le regard de l'enfant est capable de déranger la réalité parce qu'il l'aperçoit de façon tout à fait différente. Et rien n'est autant, est aussi révélateur que l'air interloqué de certains parents aux saillies de leurs enfants, aux propos de leurs enfants, qu'ils estiment tout à fait incongrus, simplement parce que l'enfant exprime une réalité profonde qu'il perçoit au premier degré, alors que la déformation de l'éducation a joué déjà chez les parents, et qu'ils ont perdu cette fraîcheur de regard, mais en même temps ce côté décapant qui caractérise le regard des enfants. Par conséquent, le retour à l'enfance, le refus de tout conformisme et de tout mode, la poésie conçue comme une débâcle de l'intellect, je cite André Breton, c'est tout ça qui est pas seulement dans une attitude esthétique, il s'agissait de refaire le monde. C'est-à-dire qu'il y a à la base du manifeste du surréalisme une espèce d'injonction à tout casser d'abord pour recommencer et refaire le monde. Le monde est mal fait, il est mal parti, on casse le moule et on fait différemment. Et on refait le monde avec quoi? On le refait avec le désir, avec la communication mystérieuse avec les êtres, avec la rencontre des signes, avec le comportement lyrique subversif, avec l'utilisation de l'insolite. Là, je cite Breton, avec la revalorisation de la quête de la surprise, avec ce qu'il appelle aussi l'abolition de l'infâme idée chrétienne du péché, avec la victoire de l'amour sur la vie, avec l'absolu triomphe de la liberté. Et cette liberté, cet absolu triomphe de la liberté, ce n'est pas en vendant tous les jours sa force de travail comme un ouvrier, comme un prolétaire, comme un fonctionnaire que nous gagnerons cette liberté. Il a eu des mots sans appel pour condamner le travail, conçu comme étant un mode d'exploitation, un mode de conditionnement, un mode d'asservissement. Et j'aimerais bien que Gerty nous dise précisément ce qu'il disait du travail pour le désacraliser. Parce que le travail conçu dans notre société, dans notre communauté, tel qu'il est, apparaît davantage comme un moyen de conditionnement que comme un moyen d'émancipation.